marche dans tes rues, qui me marche sur les pieds. Je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots.
Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver sur Troc Radio pour une autre édition d'Un océan à l'autre. Et aujourd'hui, notre sujet du jour sera sur le polyamour. Le sentiment d'aimer plus d'une personne simultanément existe depuis la nuit des temps. Et le terme polyamour est apparu pour le décrire. Alors ce sera notre sujet du jour, le polyamour et la gestion des sentiments. Je rejoins Marie-Pierre Midouga avec qui nous en parlerons et bien sûr nos coups de cœur, nos coups de blues et nos coups de colère. Bonne soirée Marie-Pierre.
Merci Francine, merci, comment allez-vous?
Ça va, début de semaine, et pluvieux ici je dirais, mais nous avons eu un très beau week-end, il y a eu un beau soleil, 27 degrés, ce que nous n'avions pas eu depuis très très longtemps. Alors espérons que...
Ah oui?
Ah oui, mais vous savez, chez nous, on a un jour 27, un jour 15, un jour 10, alors faut pas se réjouir trop rapidement. Et vous, la température chez vous, ça va?
Très agréable. Il doit faire une vingtaine de degrés, 23, 24, je crois. Je ne suis pas sortie aujourd'hui parce que le lundi a été très, très, très laborieux déjà.
Ouais.
Laborieux au sens de beaucoup de travail, hein, pas au sens de difficile, mais beaucoup de travail.
Bah, c'est bien. J'avais une belle-sœur qui dit le travail, c'est poursuivre, c'est garder sa santé et ne rien faire, c'est la garder. Voilà. c'est comme ça, mais écoutez, c'est très bien si vous avez du travail, il y a tellement de gens qui en ont pas présentement, alors il ne faut pas se plaindre.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Je sais bien.
Parce qu'effectivement, c'est une situation qui est difficile pour beaucoup.
Et est-ce que vous avez un coup de cœur?
Alors, je n'avais pas de coup de cœur,
ouais.
Jusqu'à ce que je réalise que je voulais faire un petit coup de cœur en forme de message d'espoir pour tous les artistes.
D'accord.
On a perdu deux personnes qui étaient dans le monde artistique, là, récemment en France.
Mm-hmm.
Mais le coup de cœur, ça va porter à tous ces artistes, à tous ces intermittents du spectacle. C'est vraiment un coup de cœur, un coup de chapeau, parce que ils traversent une période très difficile. Ne pas pouvoir faire des spectacles, ne pas pouvoir rencontrer le public, c'est d'une part un manque à gagner pour les compagnies de production, pour les
bien sûr.
De spectacle.
Mm-hmm.
Les artistes ne peuvent pas, et pourtant ils ont toujours été au rendez-vous, ils ont essayé de faire des concerts sur internet, d'être sur les ondes pour essayer de compenser et de garder le lien avec le public, et moi je leur donne vraiment un véritable coup de chapeau. Ça, c'est mon coup de cœur.
D'accord.
Vous avez des concerts de Jean-Louis Aubert, quand vous avez des concerts de René Capucin, mm-hmm. quand vous avez Renaud Capucin, pardon, en musique classique, quand vous avez enfin, c'est merveilleux.
Vous parlez du monde artistique, mais aujourd'hui c'est la journée, j'en profite pour lancer un mot, c'est la journée internationale de l'Afrique. Et vous savez, ce chanteur sénégalais Youssou N'Dour, il est parrain d'une émission qui commence ce soir sur Paris à l'heure 19h. Non, 21h, pardon, qui s'appelle One Show, pour One Show, avec 250 artistes, vous pouvez regarder sur Facebook, YouTube, et qui va diffuser pour venir en aide à toute l'Afrique. Alors voilà, et je salue tous les peuples africains en cette journée internationale de l'Afrique. Mais mon coup de cœur va à chez nous, parce que depuis vendredi, c'était le début, je dis bien le début, d'un commencement d'un déconfinement chez nous. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des gens, mais pas à l'intérieur. À l'extérieur, 10 personnes, pas plus de 3 familles, c'est-à-dire qui viennent de familles différentes. Par contre, pas le rassemblement dans les parcs, ça, on ne compte pas de personnes. Mais c'est un coup de cœur et aussi un coup de gueule en même temps, parce que je trouve que, je ne sais pas, je pense qu'on perd notre certaine, je sais que c'est pour notre bien, mais où est notre liberté ? Maintenant, on n'en a presque plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est quelquefois comme... on écoute les gens comme ça, qui le gouvernement dit des choses et tout le monde écoute comme à la ligne. Je voyais les gens qui faisaient la queue et puis ça semble parfaitement être normal pour eux. Je vous dirais, Marie-Pierre, que j'ai beaucoup de difficultés. Je ne m'y habitue pas beaucoup. Comment les gens vont faire? Si vous voulez aller à l'épicerie ou faire quelques courses, vous devez attendre pour chaque, si vous voulez, des denrées. Vous devez attendre 1 à 2 heures à l'extérieur. Si vous avez besoin de d'autres trucs, je ne sais pas, moi, de quincaillerie, vous devez encore attendre 1 heure et demie, 2 heures. Ça ne fait aucun sens. Enfin, c'est ça. C'est mon coup de cœur et en même temps un coup de gueule de côté. Sur ce déconfinement qui, j'ai l'impression que le gouvernement est allé parce qu'il y avait trop de pression des gens, parce que c'est l'été, alors qu'avec le beau temps, on nous a permis de faire, on a dit vous pouvez faire des barbecues à l'extérieur, mais que les gens peuvent rentrer juste quelques minutes pour aller au petit coin, et qu'on va être très surveillé, qu'il va y avoir des agents qui vont passer, s'il y a trop de voitures dans votre stationnement, il va y avoir des délateurs. Alors, c'est une drôle d'impression et de sensations. Enfin, vous avez un coup de blues ou un coup de colère?
J'ai un coup de blues.
Ouais.
Parce qu'on a perdu Maurice Kanté il y a quelques jours.
C'est vrai.
Il avait 70 ans, un grand musicien, un grand ambassadeur de l'Afrique et de la musique.
Et de la musique.
Et des derniers griots. Donc ça, c'est mon coup de blues. Et que je mêle aujourd'hui avec le décès de Jean-Loup Dabadie. Académicien, et moi, c'est pas l'académicien que je reconnaissais, mais l'auteur de chansons, hein, Jean-Loup Dabadie, et puis le dialoguiste aussi. Donc voilà, c'est deux petits coups de blues de deux personnes qui nous ont quittés et pour lesquelles j'avais beaucoup de respect.
Et votre coup de colère?
Ah, ça, c'est un grand coup de colère, parce que quand on parle de confinement, on oublie les autres pays, on oublie en Afrique, il y a des confinements qui se passent de manière assez dure.
C'est difficile, et surtout pour la distanciation, pour eux, ça ne peut pas se passer comme dans les pays occidentaux, les gens vivent plusieurs en famille.
Surtout pour des gens qui vivent du commerce informel.
Ouais.
Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est un magnifique article de La Croix. Vous savez, le journal La Croix est un de
mes meilleurs. Oui, je lis.
Et c'est un article vraiment extrêmement touchant sur ces personnes du commerce informel, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait en Inde, ce qui s'est passé, c'est que la décision du confinement a été prise le 24 mars à 20h, mais les gens n'ont pas eu le temps de se préparer, et en fait il n'y a eu que 4 heures pour que la population puisse s'y préparer. Vous imaginez mettre à l'arrêt 1,3 milliard d'habitants en 4 heures.
C'est pas évident.
Rien n'avait été fait. Et tous les employés du secteur informel, et Dieu sait qu'il est extrêmement important, qui ne bénéficient d'aucune couverture sociale, se sont retrouvés brutalement sans ressources. Les travailleurs migrants ont été bloqués dans les grandes villes. Et on a dénoncé un des confinements les plus stricts de la planète, avec un programme d'aide extrêmement maigre. Et ça a été terrible. Cet article, vraiment, m'a arraché des larmes, véritablement.
Moi, je l'ai lu aussi.
C'était vraiment très, voilà. Donc, ça, c'est un coup de gueule, parce que je me dis quand même, il a cédé sous la pression, parce qu'au départ, il n'y avait aucun problème. Il se bossait mal dans l'Occident.
Ouais. Mais il y a beaucoup de... On se pose beaucoup de questions sur la façon dont... Ce matin, je faisais une émission aussi avec le Sénégal, et puis des instances gouvernementales, des décisions qu'elles prennent et qui sont très controversées aussi. Enfin, il semble qu'on doit aller... On fait face à ça et on n'est pas les seuls, ça se passe un peu partout. Moi, mon coup de gueule et mon coup de colère en même temps, on y reviendra. Je vais juste passer très rapidement là-dessus. Mais je pense que c'est un sujet auquel on va devoir parler, Marie-Pierre. Je veux parler de ces masques. Vous savez, on en a... Enfin, chez nous, on n'en a pas, mais les gens dans les sanitaires, dans les santé, tout le monde en emploie énormément. Et ces masques-là ne sont pas biodégradables. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il y a ces gens qui jettent ces masques, les gants et les lingettes qu'on jette partout. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Et ici, bon, on n'en a pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup qu'on jette dans les rues parce qu'on n'en a pas. Mais je voyais chez vous dans les endroits où, et pas seulement.
Il y en a déjà dans la Méditerranée.
Les gens les ont jetés
dans les caniveaux.
Oui, dans les caniveaux et partout. Je trouve ça dégueulasse. Et surtout les éboueurs qui doivent tout ramasser ça. Comment on va. On ne peut pas se débarrasser du virus comme ça, parce qu'on disait que ces masques-là, même si on s'en sert à la maison des masques chirurgicaux ou peu importe, il faut les mettre dans des sacs, et tous ensemble, pas mélanger avec les autres, et ne pas les mettre dans les ordures récupérables, ils doivent être dans les ordures ménagères, et ça va être enfoui comment? Comment? Là, on a dit qu'on avait trouvé quelque chose pour garder les masques chez vous, FF, je ne sais pas quoi, chez nous qu'on appelle N95, et les autres chirurgicaux, qu'on pouvait les nettoyer avec un produit, mais que ce n'était pas à 100%. Parce que c'est un sérieux problème. Dans les hôpitaux et partout qu'on emploie ces masques, c'est par milliers, voire par millions sur la planète. Il va falloir que, bon, on en produise.
C'est un autre problème sanitaire, alors. Généralement, ils sont brûlés, hein, c'est l'incinération.
Ouais.
C'est comme ça que sont traités les déchets médicaux. La difficulté pour le grand public, c'est que ce n'est pas traité comme des déchets médicaux. Donc,
c'est ça. Voilà.
Ils soient avec ce qu'on appelle les OMR, donc les ordures ménagères, et dans un sac. Alors, évidemment, alors, bon, les gens, ça va faire réutiliser des sacs plastiques pour qu'on mette des.
Ben voilà, voilà, on ne s'en sort pas.
Alors, cela étant, j'ai vu passer ce matin.
Ouais.
Justement, des masques fabriqués en chanvre, puisqu'on a on a ce textile-là qui peut servir et le chanvre est biodégradable.
Ouais.
Or, on sait que la maladie ne reste pas plus de 2 jours. Hein, donc, quand votre masque il est à la poubelle, ensuite le virus il est inerte au bout de 3 jours. Hein.
Ben on disait, dans l'article que j'ai lu, Marie-Pierre, je ne vais pas vous contredire, mais on disait 4 à 5 jours qu'il fallait les garder, même allant jusqu'à une semaine avant de mettre le sac dans les ordures ménagères. Alors, je ne sais pas. Enfin.
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de bonnes dates.
Le tout est son contraire. C'est comme ça. Hein.
Toujours est-il, voilà. Nous, on avait fait, pour d'autres dossiers, on avait précisé que tout ce qui était carton et masque, dans la mesure où vous n'avez effectivement pas touché de personnes atteintes, enfin vraiment véritablement malades, on ne le sait jamais. C'est vrai que au moins vous les mettez dans la poubelle, dans un sac plastique et dans la poubelle, et qu'effectivement là vous n'allez pas les ressortir, et que normalement au bout. De toute manière, les poubelles sont sorties, puis vidées. Mm-hmm. Il se passe quand même un délai.
Un délai d'une semaine, ouais. Il ne passe pas tous les jours. Hein. Non, c'est vrai, on ne les ramasse pas tous les jours, voilà. Mais enfin, c'est un problème que partout à travers les pays, on va devoir faire face. Mais nous, on n'est pas encore réglé notre problème. Je voyais ce matin au Sénégal que toute la population s'est mise à la machine à coudre. Tout le monde en a. Je ne sais pas ici... quel est notre problème, mais on n'a toujours pas des masques, ça va arriver. On devrait...
Alors en France, ça y est, on commence à voir des gens masqués, beaucoup, et là, je peux vous dire, j'étais au marché des Manches, en fait, les gens non masqués étaient minoritaires.
C'est vrai. Est-ce que vous avez ça chez vous ici? On a dans les grandes superficies ou à l'extérieur de grands commerces, de grands lavabos à l'extérieur, 3 ou 4, avec les gens peuvent se laver les mains. Mais là, je les regardais cette semaine, on se lave les mains, mais là, on doit avec du papier après. Et là, les gens jettent les papiers à peu près n'importe où. Alors, c'est encore ce manque de civisme. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que les gens soient mis au pas, qu'ils comprennent que... Il y a des règles aussi à suivre, même si ça ne nous plaît pas vraiment. Il y en a un qui était, je pense, qui a dû avoir, je ne sens mentir, là, 10 personnes qui ont eu le temps de passer et lui se lavait encore les mains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas compris, mais ça devenait paranoïaque, là.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'il avait un toc. Ça arrive aussi, hein. Toutes les personnes qui ont une tendance paranoïaque ou qui ont des tocs à propos de l'hygiène, c'est une période extrêmement difficile pour eux.
Enfin, c'était ça. On fait une pause musicale, puis on va revenir à ce polyamour. J'ai bien hâte de vous entendre là-dessus. J'étais très surprise, moi, de découvrir tout ce qui se passait autour de... Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? On fait une pause musicale et on revient tout de suite. Vous êtes sur Tour Radio, je suis Francine Broca, accompagnée de Marie-Pierre Meidouga.
Louis prend son bus comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle, elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme.
Vous êtes sur Troc Radio, vous écoutez D'un océan à l'autre et notre sujet du jour, le polyamour. C'est un gros sujet, Marie-Pierre.
Ah, un énorme sujet, si j'ose dire. Dans la mesure où, en fait, je me suis aperçue qu'on disait polyamour, mais certains récusaient ce terme et parlaient plutôt de libre amour. Je pense à Vincent Cespedes. Certains disaient « je ne suis pas polyamoureuse, mais j'ai des amours pluriels ». Et d'autres personnes encore disaient « mais moi, je ne fais pas le polyamour, mais je n'aime pas de manière conventionnelle ». Donc, il y a plusieurs termes qui regroupent le polyamour. Mmh. Et puis, de toute manière, en règle générale, on pourrait parler des nouvelles relations amoureuses ou des nouvelles manières de conjuguer le verbe « aimer », peut-être.
Peut-être, là, mais il faut dire aussi qu'il y a autant de polyamour qu'il y a de polyamoureux ou à polyamoureuse. Et que c'est une relation qui est transparente. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne triche pas quelqu'un, là.
C'est ah, tout à fait. Il ne s'agit pas de tromperie,
non.
Il ne s'agit pas de libertinage,
mmh.
Et encore que ce que l'on peut avoir de commun avec le libertinage, c'est qu'effectivement, les deux sont le libertinage comme le polyamour, il faut qu'il y ait consentement des deux.
Oui, c'est ça qui est important de le dire, c'est que tout le monde est au courant de ça.
Voilà. Mais le principe du polyamour, c'est de dire, mais en fait, on peut aimer plusieurs amis de manière différenciée, on aime ses enfants de manière différenciée, et alors pourquoi on n'aimerait pas les personnes d'amour, Eros, les personnes du même amour, ou en tout cas on ne les aimerait pas profondément, mais de manière différenciée, et sans qu'il y ait une seule personne qui vienne combler tout.
Ouais, mais ah, ça, c'est pas dans nos mœurs. C'est ça. C'est pas dans nos mœurs.
De... Alors, c'est pas dans les mœurs. Ça ne l'est plus dans les mœurs.
Mm-hmm.
Il faut... Et c'est ça qui est intéressant à dire. C'est que souvent, on dit c'est pas. Et quand on dit c'est pas, en général, c'est comme pour le droit des femmes. C'est comme pour beaucoup de choses. On a l'impression que ça a toujours été comme ça. Or, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Il date la plupart du temps,
ouais,
du 19e siècle. À l'époque où on a finalement remis vraiment en avant la monogamie, le couple donc monogame, la cellule familiale extrêmement resserrée, et puis où on a aussi commencé avec cette fiction des mariages d'amour. Or en fait, d'abord avant, le mariage n'était pas forcément un mariage d'amour d'une part, et d'autre part, on ne mettait pas forcément ensemble mariage et amour d'une part. Et d'autre part, quand on aimait, il était fréquent d'entendre des hommes ou des femmes dire qu'ils aimaient leurs amants et qu'ils étaient mariés.
Mmh.
Et il y avait une certaine tolérance. Quand bien même d'ailleurs, il n'était pas usage d'aimer son mari ou d'aimer sa femme. Alors, donc les gens et les autres avaient des amours. Il y a eu des périodes au XVIIIe siècle,
ouais,
par exemple,
Mais moi, vous savez ce que j'ai été surprise de voir ça, parce qu'on on a tous un tabou, hein, pour commencer, à tous les gens à qui j'en ai parlé, on pensait que c'était, comme on dit en anglais, one night stand, une relation d'un soir ou une relation de 3 jours, que ça ne durait pas. Ça, mis à part, c'est que j'ai vu que ça se produisait chez les jeunes. Quand j'ai commencé à faire les recherches, je pensais que c'était chez des gens de 45 ans, 50 ans, montant. Non ! Des jeunes, 22, 23 ans, qui avaient soit plusieurs amoureux ou le contraire, plusieurs amoureuses. Et j'étais fort surprise de voir ça. Et vous ? Même ici au Québec, je veux dire, il y a des associations, des psychologues qui s'occupent de ça. C'est ancré dans notre société et on en voit de plus en plus. On en parle peut-être moins parce que c'est un tabou, parce que les gens ne veulent pas en parler trop, parce qu'ils sont jugés comme dans quelque chose que les gens ne connaissent pas. Si on ne connaît pas, on a peur, puis on ne veut pas savoir, on se cache les yeux. Mais chez vous, en France, vous voyez que ça existe beaucoup.
Oui, ça existe beaucoup et j'en veux pour preuve le nombre d'émissions qui en sont consacrées par an. Il y a au moins 4, 5, 6 émissions, quelles que soient les chaînes, qui parlent du polyamour ou des amours pluriels tous les ans. C'est un phénomène où on a vraiment commencé à en parler. Alors, je parle évidemment, tout le monde a entendu parler du film Jules et Jules, Jules et Jim. Hein.
Oui. Un très beau film d'ailleurs. Oui. Oui.
Très beau film d'ailleurs. Et puis, mais on en parlait déjà. Mais là, ça l'a un peu consacré, et puis on en parlait tout le temps, et puis on est dans un pays de l'amour galant, et on est dans un pays où, de toute manière, il a toujours été, presque naturel d'entendre parler d'une femme à des amants, un homme à des maîtresses. Hein, on est dans un pays, certes, de tradition judéo-chrétienne, mais où le mariage n'a jamais eu ses fondements très rigoriste comme on peut le voir dans d'autres pays où les époux demandent pardon parce qu'ils se sont trompés l'un et l'autre. Voilà, déjà, c'est pas dans la tradition française.
Non, et puis il faut dire aussi que c'est un amour exponentiel et que ce n'est pas juste de sexe. Il faut comprendre ça aussi, parce que dans la tête des gens, ils ont plusieurs amoureux parce qu'on dit, écoute, rester avec la même personne toute une vie, ça peut pas toujours fonctionner. Et beaucoup de gens associaient ça à une partie de sexe ou parce qu'on avait besoin d'un changement. Mais il y a beaucoup plus que ça. Moi, tout ce que j'ai entendu, j'étais vraiment, vraiment surprise de voir que les gens s'aimaient vraiment. C'est que chez un, elles trouvaient quelque chose et chez l'autre, elles trouvaient autre chose. Et ce que j'ai compris, par contre, et qui est très, je pense qu'il est nécessaire de le dire, c'est que si on est très jaloux ou jalouse ou possessif ou possessive, c'est pas fait pour nous. On oublie ça.
Voilà, mais parfois on le l'être parce que ensuite il y a souvent des règles précises. Si on reprend un petit peu ce qui se passe dans le problème, c'est qu'en fait, d'un certain côté, soit par nature, soit par choix, parce qu'on a déjà testé le couple monogame, on s'aperçoit que le couple monogame, ça ne fonctionne pas. Alors, on devrait s'en apercevoir un petit peu plus vite, vu le nombre de divorces et de séparations.
Ouais.
Hein, c'est pour ça que j'ai parlé d'amour curieux, parce que maintenant, on sait que de toute manière, on va tomber amoureux plusieurs fois dans une même vie. Donc déjà, c'est sans doute ça qui rend peut-être plus, qui sort le polyamour du dessous, hein, de loin, en dessous le tapis où il était caché, et qui lui permet de montrer le bout de son nez et d'être beaucoup plus à l'aise, parce que effectivement, maintenant, on sait qu'on a une grande espérance de vie, qu'on va aimer plusieurs fois, et les gens disent, mais en fait, on peut déjà aimer plusieurs fois.
Mais c'est pas fait pour tout le monde, Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est le polyamour, c'est pas fait pour tout le monde.
Je ne sais pas pour qui c'est fait, mais en tout cas, je peux tenter d'expliquer pourquoi c'est fait.
D'accord.
Généralement, les couples qui viennent vous voir et qui vont voir des thérapeutes en conflit, quand ils viennent régler un conflit de couple, quand ils viennent vraiment rencontrer ou faire une thérapie de couple, souvent ils vous expliquent qu'ils ont eu des coups de cœur, mais qu'ils n'y ont pas cédé.
Ouais.
Parce que c'est la monogamie qui est la règle et que rester fidèle, c'est parfois un gage de vraiment un rapport de soi à soi. C'est-à-dire, on se dit, je suis fière parce que je suis restée fidèle. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de tentation.
Ah
la
non,
plupart des gens
non,
me disent ça.
Bien sûr.
Ce qui veut dire que donc il y a des tentations. Et donc ça veut dire que en fait on aime, on peut aimer plusieurs fois. Sauf que
on ne se donne pas le droit.
Tout à fait. On ne va pas jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'a, moi, intéressée dans l'idée de faire cette émission.
Ouais.
C'était l'idée de dire, mais en fait, quand les gens sont tous étonnés, mais les gens vous disent tous, je suis restée fidèle, mais ça n'a pas été facile. Parce que c'est
j'ai
un
eu des
choix.
Tentations. J'ai eu des tentations.
J'ai eu des tentations, ouais. C'est un choix. Je ne suis pas allée au bout de mes coups de cœur. J'aurais pu partir avec un tel, j'aurais pu céder,
ouais.
Non pas à un désir passager, mais réellement à un coup de cœur.
Mm-hmm.
Et puis, je ne l'ai pas fait.
Une dame me disait, j'ai mon mari et j'ai mon amoureux. Et j'ai compris avec le temps que je ne voulais pas quitter mon mari parce que je l'aimais vraiment aussi. Et mais j'avais un autre coup de cœur. Alors, pourquoi quitter la personne que l'on aime, qu'elle me disait, quand parce que quelqu'un d'autre a touché notre cœur. Et c'est deux personnes tout à fait différentes. Mais c'est une relation qui s'est bâtie depuis 8 ans entre les deux, et comme avec une transparence, avec des règles aussi. Mais c'est pas évident. Moi, je trouve que... Enfin, surtout quand l'autre personne... Ouais. Enfin, ok, si j'étais surprise de voir au Québec combien il y avait de personnes. Je ne m'attendais pas à voir ce nombre de personnes, comme je vous disais, qui vivaient ce polyamour.
Mais l'idée, c'est vraiment de... Je pense que les gens qui décident... Alors, on a effectivement tous ces jeunes trentenaires, hein,
ouais.
Entre 20 et 30 ans, mais les gens qui décident vraiment du polyamour sont vraiment des gens qui, en principe, se sont dit « Pourquoi je vais brider ce que je suis ?» J'aime plusieurs personnes à la fois. Mes parents m'ont appris qu'ils m'aimaient. Mm-hmm. Ils m'aiment différemment. Ils ont 10, 15, 5, 3, 2 enfants, mais ils les aiment tous. Et effectivement,
mais est-ce que ce n'est pas différent ? Ce n'est pas différent pour une vie avec...
Est-ce qu'on peut différencier les amours ?
Je vous pose la question. Je vous pose la question. Oui, je vous pose la question.
Et je vous réponds que quand on aime, on aime.
Bien sûr.
Et on le sait quand on est. On le sait quand on est parent ou quand on est mère ou
mm-hmm.
quand on peut aimer. Et que pour moi, il n'y a pas de différence. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des habitudes. Il y a des traditions judéo-chrétiennes qui dit que quand on aime avec le cœur et pas avec le corps. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer. Mais si vous êtes capable d'aimer 10 personnes de manière différente, vous êtes capable, cet amour, il est partagé. La fidélité ou la conception qu'on se fait de la fidélité,
mm-hmm.
c'est tout autant une croyance que l'idée de penser qu'on ne peut pas aimer, sinon vous ne pourriez pas aimer vos enfants de manière égale.
Mais je pense que nos enfants, on les aime tous pour ce qu'ils sont et différemment. Alors c'est peut-être aussi la même chose pour des amoureux. Un nous apporte...
Oui,
c'est ça, on les aime différemment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas tous très fort, mais d'une manière différente, tout simplement. Alors il serait comme ça, idem, de penser dans le polyamour qu'on peut reproduire ça de la même façon qu'on...
Mais les personnes étant différentes, vous ne pouvez pas les aimer de la même manière.
Non.
Les personnes sont différentes.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Donc, et ce qui est intéressant, c'est cette orientation. Parce que c'est une éthique et c'est souvent très fatigant. Tous les témoignages disent que c'est parfois épuisant.
Mais il y a de règles. Il faut beaucoup de discussions entre eux. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'était... Il y a plusieurs figures. Il y a à 3 ou à 5. Une qui a 2 amoureux. Donc, elle, le principal... n'a pas d'autre personne qu'elle. Elle me disait qu'elle passait un week-end chez son mari, un week-end chez son amoureux, c'est comme ça qu'elle l'appelle, et que c'était comme... ils avaient la garde partagée d'elle. Ça m'a fait sourire quand elle a dit ça. Alors, une fin de semaine chez un, une fin de semaine chez l'autre. Et c'est tout à fait. Elle me disait, c'est normal parce que lui, il aime quelque chose, l'autre, il aime autre chose. Mais ce que j'aurais aimé entendre les personnes qu'elles vivent avec des personnes qui ont un polyamour et qu'elle n'en a pas. C'est-à-dire comme son mari, lui, vivait avec sa femme qui avait des amoureux, mais lui, il y avait juste elle. Alors, j'aurais aimé entendre plus de personnes qui parlent, eux, de ce qu'elles vivaient. J'ai surtout vu des gens qui vivaient le polyamour. Et c'est ça.
Alors moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains quand même qui ont écrit sur le polyamour.
Ouais, ouais.
Il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit. Il y a une grande journaliste qui est Françoise Saint-Père, qui a écrit plusieurs livres sur les amours pluriels et et qui, effectivement, a déjà tenté d'expliquer ce qui se passait. Et pourquoi ça dérangeait, pourquoi ça se faisait. Il y a Isabelle Brouet qui a écrit un film qui s'appelle Lutine, qui en a parlé. Il y a Vincent Céspedes qui déteste le mot polyamour, mais qui vous parlera plutôt de libre amour. En fait, l'idée, c'est d'avoir des relations avec qui on veut, sans se cacher, se sentir bien. Et il y a une notion d'amour gratuit, en fait, hein, qui est un peu mal admis, hein, dans notre société. Voilà. Parce que, en fait, est-ce que c'est basé sur la sexualité ? Non, c'est d'abord basé sur le sentiment.
Oui, tout d'abord.
Ça peut avoir un trait avec la sexualité. Les amours peuvent se mélanger ou pas du tout. Et voilà, c'est très. Il y a vraiment chaque liberté. En fait, chaque couple met en place sa propre éthique. Sa propre définition.
Oui, et il y en a qui vivent ensemble et d'autres qui ne vivent pas ensemble. J'ai vu des couples à trois qui vivent ensemble, qui ont expliqué à leurs enfants et que c'était comme ça et c'était leur façon de vivre et qu'ils étaient heureux et c'était ce qui comptait à travers eux.
Il y en a qui partent en vacances comme ça. Il y en a qui décident, voilà, moi, tous les ans, je pars en vacances avec mon amoureux. Il y en a qui ne vivent pas du tout ensemble, jamais. Et puis il y a des familles, donc voilà, je pense que l'idée principale qu'on peut retenir du polyamour, c'est l'idée de se dire on décide des propres règles qui définissent nos relations.
D'accord, on fait une courte pause, Marie-Pierre, on va parler justement de ça, de cette relation et de la jalousie qui peut s'installer, parce qu'il y en a qui sont jalouses, mais apparemment ça se travaille, ça, puis en discutant, on peut comprendre si notre amoureux a deux ou trois autres partenaires et quelle est notre place à travers les deux. Est-ce qu'on a la première place, la deuxième place ? La question peut se poser. Vous êtes toujours sur Troc Radio, nous parlons de polyamour, nous revenons après cette pause musicale.
Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main.
Vous êtes toujours sur Troc Radio. Si vous nous rejoignez, nous parlons d'amour au pluriel. C'est plus joli comme mot, n'est-ce pas, Marie-Pierre ?
Oui, d'amour pluriel.
D'amour pluriel.
Alors, vous posiez la question de savoir est-ce qu'il y en a qui ne se portent pas très bien. On a là quelques témoignages que j'ai trouvés dans le journal Féminin, où effectivement, il y a une jeune femme à qui son ami a dit qu'il était polyamoureux et que donc ils avaient donc une relation fusionnelle. Et puis, il lui a dit qu'il fréquentait quelqu'un d'autre. Et il lui a dit que lui-même ne serait pas jaloux si elle fréquentait quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, elle réalise qu'en fait, il y a des officiels, mais que l'autre aussi est officiel. En fait, elle se pose la question de savoir si elle a la première place ou pas. Et je vous ai entendu parler de première place ou pas.
Ouais.
Et je crois que là, ça commence à être la difficulté. À partir du moment où vous commencez par vous poser la question de votre place, de la première,
c'est peut-être
la
seconde, pas fait. C'est peut-être pas fait pour nous, alors, si on se pose ce genre de questions.
Quand vous commencez à ne pas vivre la relation pour ce qu'elle est, C'est-à-dire, c'est une relation que vous avez avec la personne, et en soi, c'est une relation importante. Mais que vous vous posez la question du nombre de fois où il voit l'autre, de la place, du temps qu'il donne à l'autre par rapport
Mais j'ai vu qu'on disait à cela, Marie-Pierre, qu'il y avait la différence entre une jeune femme aussi, elle parlait du même problème que vous me parlez maintenant. Elle disait qu'il y avait la différence, elle a compris que. Il y avait la différence entre la jalousie et l'envie. Comme elle était quelqu'un qui avait un travail qui lui prenait beaucoup de son temps, elle disait qu'elle n'était pas jalouse de l'autre partenaire, de son amoureux. Elle aurait juste eu envie de partager plus de temps comme l'autre avait avec lui. Alors, est-ce que c'est une façon de transférer de la jalousie à l'envie? Mais là, vous parlez de
Voilà. Ce que j'étais en train de dire, c'est que ce qui était important, c'est... d'essayer de ne pas catégoriser. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des règles en matière d'amour qui est de dire « j'ai une relation avec quelqu'un et je dois me préoccuper de cette relation, de mon bout de relation à moi avec cette personne ». Et pas des relations des autres, effectivement. C'est quand même plus confort. Si vous commencez par regarder dans l'assiette du voisin pour savoir...
Oui, mais je comprends cette...
J'ai pas fini.
Allez-y, allez-y.
S'il vous consacre du temps, c'est là où ça va être compliqué. Vraiment. Là, c'est compliqué. Okay. C'est pas que c'est pas fait pour vous. C'est que si vous vous posez la question de mesurer le temps... C'est comme lorsqu'on passe avec des enfants. Parfois, vous n'avez pas beaucoup de temps avec les enfants.
Et vous passez plus de temps avec un qu'avec un autre. Selon ses besoins, peut-être?
Oui, ou vous passez peut-être plus de temps avec à votre travail que les enfants, parce que vous ne les voyez que 3 heures. Et souvent, on vous explique que ce n'est pas tant la quantité que la qualité de la relation qui importe.
Ouais. Mais pour revenir à cette personne que vous parliez, que vous lisiez là au féminin, il est normal pour la personne à qui son amoureux vient, puis qui lui dit ben, « écoute, je t'aime bien, mais j'ai aussi quelqu'un d'autre que j'aime ». Et peut-être que elle, cette jeune femme, n'était pas tout à fait prête à ce genre de relation. Comment on doit prendre ça?
Alors, c'est important qu'elle se respecte, cette personne. Et je crois que c'est... L'autre exemple, c'est exactement ça. Hein. C'est une personne qui vraiment le vit mal et qui dit « mais je le vis très mal, je ne le vis pas bien parce qu'effectivement, je suis triste, il passe du temps avec quelqu'un d'autre ». L'important, c'est dans ces cas-là de se dire « moi, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je suis à l'aise dans cette situation-là ? Si je ne suis pas à l'aise, il vaut mieux rompre hein ». Parce que ça va être très compliqué.
Oui, parce que c'est difficile.
Parce que sinon, vous allez... Et évidemment, vous allez souffrir. Il faut être dans une situation... Alors, tout évolue. Il n'y a rien de figé dans une relation. Vous pouvez très bien accepter aujourd'hui ce que vous n'accepterez pas demain.
D'accord. C'est comme ça. Mais si on a un petit peu de jalousie, se dire, on dit toujours que c'est l'altruisme qu'il faut être... Alors, s'il est avec quelqu'un d'autre, ben, je dois être contente pour lui du bonheur qu'il a avec l'autre. Ça passe pas tout le temps dans la tête de tout le monde, ça, Marie-Pierre.
C'est mieux, mais la jalousie peut être un aiguillon fort intéressant aussi. Je pense que la jalousie est souvent un aiguillon intéressant, sauf si elle vous rend malade. La jalousie, ça vous permet aussi peut-être de vous transcender, peut-être de penser à certaines choses que vous feriez. Il y a beaucoup de choses que ça aide. Ça met un petit peu de piquant dans les couples, la jalousie. Un peu.
Il y a ça détruit aussi, quelquefois.
Si ça vous rend... Alors, quand ça en est à la destruction et quand ça vous rend malade et quand vous en êtes au point où ça vous inflige des blessures narcissiques extrêmement fortes, d'abord, il faut vous interroger sur la place de la jalousie. Est-ce que c'est réellement l'autre que vous aimez ou est-ce qu'effectivement, comme vous parliez, il y a cette question de la première place et est-ce qu'à travers votre amoureux, vous ne réglez pas une situation qui n'était pas réglée en vous et qui était partout et qui était votre place dans la fratrie, votre place dans la famille. Parce que très très souvent, la jalousie, ça renvoie à des choses comme ça.
Mais est-ce qu'il est important d'en discuter avec l'autre? De dire ce qu'on ressent vis-à-vis sa relation avec les autres. Est-ce qu'il est important d'en discuter?
Il est important d'en discuter parce que de toute manière, sans dialogue, il n'y a pas de polyamour. Je crois que les amoureux dans le polyamour passent un temps infini à dialoguer, c'est ça qui les épuise. Hein. Justement,
oui.
Pour être parfaitement égaux, c'est-à-dire pour dire j'accorde le même temps, ce qui est extrêmement difficile, j'essaye de ne pas blesser l'autre. Comment je peux faire pour que les gens se sentent à l'aise dans cette relation où moi je me sens à l'aise. Et puis, passe aussi du temps parce que vous-même, vous pouvez être tout à fait polyamoureuse et puis tout d'un coup, parce que c'est cette personne-là et pas une autre, ne plus l'accepter. Pourquoi? Comment? Parce que cette personne vous fait penser à quelqu'un d'autre ou ravive une blessure de quelque chose que vous avez vécu et là, vous n'acceptez plus.
Est-ce que c'est différent plus, diriez-vous, chez l'homme que chez la femme?
Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plus de femmes polyamoureuses que d'hommes. Alors, c'est drôle, là, c'est ce que je lisais, là.
Oui, moi aussi, j'ai lu la même chose. C'est drôle.
Je vais regarder ça parce que les femmes n'aiment pas mentir, dit-on.
Mais on dit que...
On va enlever un gros, une fausse croyance. Les femmes préfèrent être franches. C'est elles qui divorcent en premier lieu et elles aiment bien la franchise.
On disait que les hommes étaient plus jaloux. Moi, c'est ce que j'ai lu. Et que on voyait plus de femmes qui étaient polyamoureuses parce que les hommes, finalement, n'acceptaient moins cela. Parce qu'avec le temps, ils devenaient jaloux et ils n'acceptaient pas que leur amoureuse ait plusieurs autres amoureux que eux.
La rivalité. C'est assez étrange parce qu'en fait, on est assez esclave des traditions, des croyances. On est quand même dans une société patriarcale où on peut avoir plusieurs femmes, mais dont on sait que c'est elle qui porte nos enfants, hein, c'est le but. Hein. Mais par contre, que la femme ait plusieurs hommes, voilà, on a du mal à l'aimer, donc déjà. Et là, qu'il y ait cette espèce de liberté, cette jouissance d'être libre, une jouissance intellectuelle, avant d'être une jouissance physique, hein, d'être libre, ça c'est assez compliqué sans doute à supporter pour beaucoup de personnes. Et puis d'être anticonventionnel. Annoncer clairement qu'on est polyamoureux, c'est dire je n'aime pas les conventions, je suis une femme libre, je n'aime pas les conventions, je vais aimer plusieurs hommes, il n'y a aucun qui a la préséance dans mon cœur, et j'affirme et j'affiche mon amour. Et pour tout le monde, c'est afficher sa sexualité, alors qu'on a bien vu, c'est pas ça, hein. Mais pour tout le monde, c'est surtout ça. Elle affiche sa sexualité.
Mais est-ce qu'il est possible d'avoir le même niveau d'amour pour... Vous disiez, là, on n'aime pas plus l'une que l'autre.
Ben, on le répète pour les enfants. Est-ce qu'il est possible d'aimer des enfants?
Je pose la question, là, parce que je voyais des femmes qui, elles, se posaient la question, justement parce qu'elles revenaient toujours à cette place. Est-ce que moi, j'ai la première place, la deuxième place? Est-ce qu'ils m'aiment plus que l'autre, l'autre que l'autre? Est-ce que moi, j'aime plus l'un que l'autre? Les réponses que moi, j'ai eues vis-à-vis certaines femmes, c'est que non, elles l'aimaient chacun parce qu'il apportait quelque chose de différent dans sa vie. Comme exemple, elle aimait peut-être Beethoven, il aimait manger du sushi, et l'autre, ben, il aimait Mozart, et il aimait, je ne sais pas, David Bowie. Ouais, c'était complètement différent.
Ou avec les deux ou les trois, elle atteint une forme de complétude qu'elle n'aurait pas avec un seul. Parce que peut-être avec un, elle va discuter philosophie, il va être plutôt plus tendre, elle va avoir cette espèce d'amant, ami complètement loufoque qu'elle ne supporterait absolument pas dans sa vie de tous les jours avec quelqu'un dont... avec un époux où elle aime la sécurité, la stabilité, ou vice-versa d'ailleurs. Hein.
Bah oui.
Vous voyez, donc en fait, il y a autant de scénarios possibles que d'amoureux et d'amoureuses. L'idée est de dire que certains recherchent la complétude, certains ou certaines recherchent la complétude, c'est-à-dire un me suffit pas parce qu'il me manque la gentillesse de l'un, l'humour de l'autre, la culture du troisième, la loufoquerie du quatrième, et que sais-je encore. D'autres disent je me pose pas la question, parfois il y en a un qui traverse ma vie, je suis mon coup de cœur parce que
qu'il y a des amours au pluriel qui perdurent dans le temps, d'autres qui ne perdurent pas. Non,
on a eu un couple comme ça où on a appris quand même qu'elle avait été un peu malheureuse entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, qui était un couple comme ça, un peu.
Oui, c'est vrai.
Qui vivait assez il y a d'autres couples qui vivent assez librement. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de règles. On aimerait bien que les choses soient balisées. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir du polyamour, c'est que finalement, la monogamie, C'est quelque chose qui nous a été donné, non pas, alors là je vais choquer sans doute ceux qui croient, les croyants et beaucoup de gens,
Allez-y,
mais
choque-nous,
ça nous a
Marie-Pierre.
été donné pour pouvoir penser plus tranquillement. C'est-à-dire qu'on n'a pas à penser, on a appris à vivre. Voilà. Hein, on se lève, on honore ses parents, on est en couple monogame, on n'en change pas, on meurt. Voilà. Bim. Voilà, on a une stabilité alors que la vie évolue, nos envies évoluent, nos goûts évoluent, notre corps évolue, notre cerveau évolue. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit toujours avec la même personne.
Non, mais une personne disait, ben, ce qui fait dans notre relation, qu'elle avait les relations de l'amour au pluriel, elle disait que ce qui était différent, c'est que elle n'avait pas à protéger son couple, mais à protéger la relation.
Ça, c'est beau.
C'est beau, hein? J'ai trouvé que
ah
ça
ça c'est
faisait.
très ah non mais moi ça me touche beaucoup c'est
Ouais,
très
ça m'a
beau
beaucoup
parce
touché la façon qu'elle disait ça. C'est la même personne qui disait qu'elle aimait beaucoup son mari, puis pourquoi elle devrait quitter son mari parce que quelqu'un d'autre a touché son cœur. Et j'ai trouvé que, je ne sais pas si elle avait suivi beaucoup de thérapie, si elle avait suivi des gens, mais pour elle, non, ce n'était pas une question que c'était compliqué parce que les gens lui disaient, oui, mais c'est déjà assez compliqué de vivre un amour que d'en vivre plusieurs, comment faites-vous? Et c'est là qu'elle a dit ça. Non, vous ne
Et
comprenez
c'est
pas.
vrai que c'est très beau parce que si on était dans une société où il n'y avait pas d'adultère, hein, entre guillemets, qui n'existe plus et qui
Ben
n'est plus
non,
une faute,
ouais.
je comprendrais. Mais on est dans une société où il y a beaucoup d'adultères quand même, hein, et où
Écoutez, moi j'ai vu quand j'étais plus jeune fille, même dans la famille, un oncle qui avait une maîtresse depuis plusieurs années.
Mais bien sûr.
Et ça, c'était, je veux dire, c'était connu de tout le monde. Il habillait les deux pareils, il allait en vacances au même endroit, au même hôtel. Enfin, il aurait pu différencier un peu, il aurait pu servir un peu plus cette imagination. Mais c'est
Des
vrai.
paresses, ça, quand même. Hein.
Ah oh oui, non, non, j'avais une tante qui disait, tu vas à la piscine là-bas, si tu vois, là, elle, regarde, ça, tu vois quelqu'un qui a un maillot comme ça, là, c'est parce que c'est la maîtresse de ton oncle. Et effectivement, ça l'existait. Alors, mais on le savait, mais c'était pas ouvert comme un amour au pluriel. Mais enfin, ce que j'ai retenu, c'était ça, qu'il fallait pas protéger son couple, mais protéger sa relation. Et déjà, ça donne une ouverture tout autre sur l'amour au pluriel.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est de se dire que on est libre. Ça veut dire que cette liberté-là, alors quand je dis on, je m'englobe pas, hein, mais c'est pour, voilà,
Ouais.
j'englobe les gens, ils sont libres. Ce qui veut dire qu'ils inventent leur propre manière d'aimer hors des schémas traditionnels et sans doute qu'ils inventent une autre manière d'être plus heureux, d'être plus en phase. La coach de vie que je suis sait combien les conventions sont parfois pesantes et des chaînes. Si on nous disait, mais tu as deux aventures, tu dois choisir. Pourquoi choisir?
Non, mais c'est ça,
Pourquoi?
disons, est-ce qu'il y a une gestion de sentiments à faire? C'était une question qui
Ah,
t'a posée. La
on n'est pas dans
gestion
la
des sentiments.
performance et dans le... On n'est pas dans la performance et dans l'entreprise, hein. On ne
Ouais.
doit pas manager. Vous savez comment je déteste ce mot, gérer ses
Ouais, je
émotions ou
sais,
gérer
mais
ses
parce qu'il y
amours.
avait, il y avait une réunion chez justement une soirée d'amour au pluriel et les questions, la thérapeute demandait qu'est-ce qui était essentiel, s'il y avait des questions posées et quelqu'un a dit, oui, mais est-ce que moi je dois avoir la gestion de mes sentiments? Alors je voulais juste vous entendre. Quelle était votre réponse là-dessus? Je sais que
L'idée,
vous
c'est
détestez
de...
ça. Ouais.
Oui, parce que en fait, ce que j'aime, mais ça, c'est vraiment une conviction personnelle et qui irrigue d'ailleurs l'ensemble de mes méthodes, c'est de laisser le hasard guider les pas. Parce que c'est de la surprise et du hasard que naît la vie. La vie est, tout, est toujours, elle trouve toujours son chemin, mais elle est toujours inattendue. On est là pour des instants que l'on ne connaît pas, on ne connaît pas la fin, on ne sait pas comment va s'écrire demain. On ne sait pas comment les choses vont se passer, mais on est là pour passer un bon moment. Un bon moment de cœur, hein,
Ouais, ben, c'est ça.
j'entends, hein.
Être heureux
On
peut-être
parle bien
pour...
d'amour, hein. On parle d'amour, on ne parle pas forcément que de sexe, mais on
Non,
parle
non, non.
d'amour.
Mais vous savez, c'est ça qui est revenu le plus souvent. Et tous les gens disaient non, non, non. Tout le monde pense que c'est ça. C'est pas une question de sexe. Ça va beaucoup plus loin. C'est une relation. Et que, un peu comme monsieur disait, c'est un peu de l'amour à la carte. Et on doit faire
Un peu.
attention de ne pas blesser l'autre, les autres qui sont autour. Et je
Tout à
trouvais.
fait, être très attentif. Et moi, ce qui me choque un peu, souvent, alors c'est pas dans le polyamour, c'est justement, c'est que les gens comprendraient presque si c'était du sexe, comme si le sexe n'était pas sacré. Déjà. Ah bon, c'est que du sexe alors. Non, alors ça, déjà, ça a tendance à... En général, je fais un pas de côté J'accueille, bien sûr, hein, parce qu'il faut toujours accueillir avec la personnalité et neutralité, mais j'accueille en disant « Ah, donc le sexe en soi, ça peut aller. Mais aimer plusieurs personnes, ça, c'est presque choquant, c'est presque honteux. On peut se mélanger, mais par contre, alors voilà, donc je trouve toujours, cette hiérarchie est toujours amusante pour moi.
Donc on y revient, Marie-Pierre, parce que je veux dire, justement, qu'on en parle de ça, de sexe, parce que plusieurs femmes disaient, quand je dis à quelqu'un que je suis, ou que j'ai plusieurs amours, je passe pour une fille facile. Et ça, c'était revenu beaucoup dans la soirée. On fait une pause, on revient avec la fille facile.
Tout à fait.
Alors, on revient avec nos amours au pluriel. Et comme vous n'entendiez pas la chanson, Marie-Pierre, mais c'était « J'ai demandé à la lune », mais elle ne s'occupe pas de ces choses-là, elle n'a pas l'habitude. Alors, on va s'adresser à vous pour vous entendre. Alors, nous parlons de... Oui, ces gens disaient que quand moi, je leur parle que j'ai plusieurs amours, je passe pour une fille facile parce qu'on me dit « Oui, mais tu vas coucher à gauche et à droite » parce qu'on revenait toujours à parler de cette histoire de sexe, mais qui n'est pas ça. Et comme vous disiez, pourquoi mettre le sexe ?
Ouais. C'est, alors, oui, non, mais ça, c'est bien notre société, à la fois très faussement pudibonde et très hypocrite. En fait, très hypocrite, pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, on est dans une société où les femmes trompent leur mari, où les hommes trompent leurs femmes. Il y a même des sites pour ça, des sites où on dit « ayez une relation extra-conjugale, femme comme homme, hein, en toute… voilà ». Mais la même chose dirait qu'on n'a pas le droit de le dire. On peut le faire, mais on n'a pas le droit de le dire, sous prétexte que ça déstabiliserait la famille. Mais combien de couples se retrouvent, du coup, avec une personne qui découvre l'infidélité de son conjoint, d'un coup demande le divorce, alors qu'en fait, elle n'avait pas forcément envie de divorcer, ou n'était pas prête, ou l'homme n'était pas prêt, ou la femme n'était pas prête. Bref, évidemment qu'il faut faire attention dans le polyamour à ce que ça ne soit pas quelque chose qui soit forcé par l'un comme par l'autre, hein, en disant « tu me dis oui parce que tu es dans des conditions financières qui ne te permettent pas de refuser
hein. ». Non, mais je pense qu'il faut être, Marie-Pierre, avoir certaines règles, pas vraiment établies, mais dire les principales règles seraient peut-être d'être honnête envers soi et envers l'autre.
Honnête envers soi, c'est la moindre des choses, mais c'est peut-être l'une des choses les plus compliquées. On ne connaît pas toujours ses propres motivations. Mais en tout cas, envers l'autre, oui. C'est-à-dire qu'on ne commence pas une relation comme la jeune femme là, à qui c'est arrivé, là, dont racontait l'histoire, où finalement, ils ont eu une relation fusionnelle, mais il ne lui a pas dit au tout départ qu'il lui était polyamoureux. Une personne qui vous dit « attention, je suis polyamoureux », ou « moi, j'ai déjà plusieurs partenaires, est-ce que tu veux avoir une relation avec moi ?» C'est quelqu'un qui déjà va choisir, déjà, non pas la voie de la facilité, mais la voie du moindre ennui. Hein. A priori, il va rencontrer quelqu'un qui est plutôt d'accord, hein, sauf si la personne ne sait pas qui elle est. Il est aussi important pour une personne qui choisit cette relation-là de savoir où elle en est, elle. Parce que ça peut être énormément dévastateur pour l'estime de soi. Alors, autant ça peut booster la confiance en soi, vraiment. On dit, voilà, elle tient à la relation, elle tient à moi, elle est toujours là. Et en même temps, elle est avec d'autres personnes, mais elle reste avec moi parce que cette relation-là est importante.
Ouais.
Autant ça peut avoir des effets dévastateurs pour l'estime de soi, quand en fait, on n'est pas prête. On n'est pas prête à cette question de justement de dire, c'est une relation secondaire. Moi, je ne compte pour du beurre, je ne suis pas là, etc. Et ça peut être dévastateur pour une personne qui n'est pas au clair avec, qui a eu un passé compliqué, qui peut-être.
Mais c'est pour ça qu'on disait au départ que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde.
Voilà. Donc, il faut vraiment être clair. Ça peut renforcer le couple.
Moi, j'allais vous poser la question. Est-ce que ça, des gens qui ont un couple cas, là, est-ce que ça peut les renforcer ou? Au contraire, l'un ou l'autre.
Ça peut renforcer le couple, surtout s'ils en discutent devant un thérapeute du couple, en disant on aimerait bien tenter l'expérience, et là le thérapeute peut les aider en conjugalité ou en, voilà, peut les aider. Effectivement, ça évite la séparation. Ben, c'est bien quand c'est idéal pour les gens qui n'ont pas réellement envie de se séparer, sinon c'est comme tout, si vous ne vous séparez pas alors que vous devez vous séparer, ça va être une catastrophe comme tout, hein, ça change rien, sauf que polyamour c'est un peu plus compliqué. Ça peut apporter de l'apaisement et de la sérénité avec une personne qui sent bien qu'elle n'est pas faite pour le couple traditionnel, ou des personnes qui se mettent ensemble parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas faites pour le couple traditionnel et qui se sont astreintes pendant des années à ressembler à tout le monde.
Ouais. Une dame disait qu'elle se sentait beaucoup plus libre depuis qu'elle avait ses amours au pluriel. C'est qu'avant, quand elle était en couple, elle devait être l'acteur principal de cette union-là. Et là que maintenant,
ça
non.
Ça responsabilité. Vous avez raison, tout à fait. Alors, souvent pour les hommes ou pour les femmes, mais ça enlève un peu de charge mentale. Et c'est bien, cette espèce de... Être amoureux, ça devrait quand même être souvent ludique et joyeux et beau, parce que l'amour, c'est quand même un sentiment sacrément positif, quand même.
Ah ben oui, moi, je pense qu'il n'y a pas plus de sentiment plus beau que ça, que ces palpitations, que ces papillons, que l'amour que l'on a pour quelqu'un d'autre, et qu'on reçoit aussi, je veux dire, il faut que ça, l'ascenseur revienne.
Ouais. Et souvent, c'est vrai que la lourdeur d'être obligé d'être fidèle ou d'avoir cette espèce d'astreinte qu'on peut avoir, de ne pas céder à tous ces élans de cœur, ça peut être compliqué. Alors certes, il faut de la franchise.
Bien sûr.
Il faut également de la prudence.
Ouais.
Parce que même si le sexe, ce n'est pas forcément attaché à ce type de relation, il y a des partenaires parfois multiples. Donc, il y a de la précaution, il faut le dire aussi quand même. Il faut le rappeler. Là, ça va être un petit peu plus compliqué avec le Covid, rappelons-le.
Mais écoutez, c'est qu'il y a des gens qui se mentent aussi. J'écoutais une conversation qui disait, bon, une personne qui était mariée depuis 20 ans, puis l'autre lui disait, oh oui, mais si tu as quelqu'un qui passe derrière toi, qui te met la main, qui te frôle le cou, tu vas ressentir une sensation beaucoup plus rapide que ton homme qui te met la même pression derrière le cou, qui te caresse la nuque. Elle disait, ben non, l'autre disait, mais tu mens, parce qu'après 20 ans, la sensation, enfin, ça dépend qui, quoi, là.
Mais... Ça dépend des personnes, je pense qu'il y a des... Tout le monde sait qu'une première relation amoureuse, que ce soit, on a parfois, certaines personnes aiment être comme dans une pantoufle confortable, et puis certaines autres personnes n'aiment pas. Alors là, pour le coup, en matière de sexualité, les gens vous diront qu'une première fois, on ne se connaît pas, c'est tout à fait désagréable. Mmh. Tandis que lorsqu'on connaît bien une personne, on se connaît bien. Donc, a priori, en
fait, il n'y a pas... Mais maintenant, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il y en a pour les maladies sexuelles qu'on a comme ça, plusieurs amours au pluriel?
Ah, c'est une bonne question. C'est pour ça que je parlais de prudence.
Ouais.
Parce qu'effectivement, les examens, le préservatif ou les préservatifs, il y a des relations qui sont plurielles, mais qui sont aussi homosexuelles et plurielles. Hein. Vous pouvez aimer une femme et aimer un homme, voilà. Donc effectivement, vous avez, si vous avez pluralité de partenaires, il y a pluralité de précautions. Voilà, c'est
d'accord.
Tout bête.
Mais c'est tout bête, mais c'est comme ça. Mais il y en a même qui vivent les trois ensemble. Alors là, à ce moment-là, ben, les choses sont peut-être plus claires.
Sont plus claires, mais quand ce n'est pas le cas, effectivement, il y a cette notion de précaution à avoir. Et c'est important. Ou alors de sécurité. Et c'est pour ça qu'il faut être très franc. très très franc, parce que si vous n'êtes pas très franc, si vous avez des relations où vous ne vous protégez pas, ou voilà, c'est
ça occasionne certains problèmes chez les autres, bien sûr. Et pour, c'est
tout
pour
à fait. Mm-hmm. Vous êtes tous interdépendants dans cette histoire.
Ouais. C'est une relation.
Que les histoires soient premières ou secondaires. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça amène aussi à apprendre que l'autre n'est pas votre possession? Et ça, je pense que c'est la première des choses. On a tendance à considérer que l'autre, c'est soi. Or, pourtant, on a appris.
Non,
depuis
non.
Qu'on a quitté maman.
Il ne faut pas ça. Il faut pas ça.
Ce n'est pas le cas.
Ouais.
Que le corps de l'autre ne nous appartient pas. Et je pense que ça, c'est un apprentissage aussi.
Oui, c'est un apprentissage de dire que l'autre, on ne possède personne. C'est-à-dire que sa personne lui appartient, son corps lui appartient, comme le nôtre nous appartient aussi. Voilà.
Exactement. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de points positifs. Et puis, il y a des points négatifs qui sont la souffrance, la jalousie, le manque d'estime de soi, les ruptures amoureuses, la difficulté de ne pas pouvoir partager, comment dire, de ne pas, enfin, du moins, oui, le fait de dire, en fait, j'aimerais pouvoir le faire, mais je ne peux pas partager. Je ne me sens pas bien quand je partage. Ça me fait mal quand je partage.
Oui, sur certaines personnes, c'est ça. Ouais. Elles sont trop possessives et voilà, elles ne veulent pas partager, surtout leur homme ou leur femme, vice-versa, là non, dépendant du cas.
Alors, ce qui est important, c'est que ça fait justement travailler sur soi, sur l'image qu'on a de soi, sur l'estime qu'on a de soi, sur la confiance qu'on peut avoir en soi et en ses capacités à rebondir, à aimer, à séduire. Ça, c'est important aussi.
Ouais. Marie-Pierre, il nous reste 60 secondes. Je ne sais pas si on va refaire une autre émission là-dessus, mais peut-être dire qu'il faudrait peut-être laisser aux gens leur choix de vie et leur façon d'aimer sans juger personne.
Ah, mais vous parlez d'or. Voilà. Comme on l'a dit, la monogamie est une voie, mais ce n'est pas la seule.
Non. Tout le monde a des chemins. On peut prendre un chemin qui nous convient davantage qu'un autre. On dit toujours que le jardin n'est pas plus vert ailleurs, mais ça dépend pour qui, n'est-ce pas?
Exactement, exactement.
Non, mais c'est vrai. On a souvent des tabous. Moi, je dois dire que je ne sais pas que j'avais les yeux fermés ou que j'avais un tabou vis-à-vis l'amour au pluriel, mais j'étais agréablement surprise de découvrir la valeur qu'il y avait autour de ça.
Ah.
Voilà.
Je suis ravie. Je suis ravie parce qu'on en avait dans une de nos précédentes émissions. On l'avait esquissé et puis on l'avait pas traité. Et c'est vrai que c'est un vrai mouvement. Mmh. C'est pas une mode comme ça passagère.
Non, 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 pas du tout, pas du tout.
D'année en année, maintenant ça fait plus de 20 ans qu'il y a des associations qui sont là, 30 ans même pour certaines.
Ouais. Depuis, on dit, moi j'ai vu depuis les années 60 où ça a vraiment démarré.
Tout à fait.
Ouais. Et que ça avait débuté là. Et que c'est qu'on revient à dire qu'on ne doit pas juger personne et regarder les choses sans savoir de quoi on parle souvent. Et puis l'amour, ben, ça regarde chacun, c'est chacun pour soi. Hein. Ça ne regarde que nous, notre façon d'aimer, notre façon de faire. L'important, c'est d'aimer et puis à sa convenance et comme on le veut bien. Pensez-vous qu'on peut parler autre chose? On revient avec une prochaine émission sur peut-être, il y avait des problèmes aussi, comment le dire à ses enfants et ce que ça l'apportait aussi sur la loi, sur les
comment
lois,
le
la
dire,
justice.
Le polyamour et les autres.
Et les
ça,
autres.
C'est important.
D'accord, alors on se laisse là-dessus, on laisse les gens réfléchir et penser à tout ça, que chacun a le droit à sa façon d'aimer et qu'on ne doit pas juger personne. Marie-Pierre, ce fut un grand plaisir, toujours on apprend et je pense qu'on devient très sage en vous écoutant.
Oh, écoutez, en vous écoutant aussi, en tout cas. Non, 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 c'est vrai que je trouve que c'est toujours... on est sur des sujets qui paraissent un petit peu sensibles, à prendre avec des pincettes. Et en fait, on s'aperçoit que quand on a l'altruisme, la compassion, la générosité, et voilà, et ben, en fait, on peut...
Il ne faut surtout pas juger l'amour, parce que comme vous disiez tantôt, c'est un sentiment qui est tellement merveilleux, tellement beau, que laissons-nous aimer, tout simplement. Merci Marie-Pierre, je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à vendredi, puis on se retrouve avec l'amour au pluriel et les autres. D'accord ?
Tout à fait, et bonne fin de journée à vous.
Bonne soirée.
J'espère un petit soleil qui va se lever dans la journée peut-être.
D'accord. Bonne soirée à vous tous, bonne soirée en France et bonne fin d'après-midi pour nous ici au Québec. Au plaisir Marie-Pierre.
Au plaisir, à vendredi.
À vendredi.
Paris, Paris, de nuit, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Réveille dans tes bras, sur tes quais, y a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes cinés, je me perds dans ton quartier.